Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, nous sommes heureux de vous présenter cet ouvrage superbe sur Venise, Histoire, promenade, anthologie et dictionnaire. Alors Venise, évidemment, c'est un nom éblouissant, c'est un nom anoblissant, et les œuvres, évidemment, sur Venise sont multiples. Mais cet ouvrage, dont je ne suis qu'un très modeste collaborateur, Monsieur Vircondelet, un collaborateur plus long, et Madame Gachet, qui est la directrice de l'ouvrage. C'est son ouvrage, c'est son enfant, et c'est elle qui, évidemment, vous en dira sûrement beaucoup, ainsi que Monsieur Vircondelet. Moi, je vous dirai quelques petits points. Cet ouvrage est un ouvrage très original, parce que c'est un ouvrage qui laisse la plume libre à ceux qui l'apprennent. Et c'est un ouvrage qui a voulu être un ouvrage d'hier, c'est-à-dire... On peut le lire après être allé à Venise, on peut le lire en partant à Venise, on peut le lire à Venise, on peut le lire même à la plage à Lacanau, car il y a effectivement des passages tout à fait intéressants, sympathiques. Dans une immense culture dont je suis moi-même un peu pantois, après avoir lu l'ensemble du livre, dont je ne connaissais qu'une partie, qu'une modeste partie. Alors, pour ne pas perdre de temps, je donne tout de suite la parole à l'auteur principal du livre et la directrice de l'ouvrage, Madame Delphine Gachet, qui a fait cet ouvrage avec un Italien, Monsieur Alessandro Scarsella. Mais puisqu'il n'est pas là, nous ne parlerons pas de lui, tant pis pour lui. Et je donne la parole immédiatement à Madame Gachet en lui posant la question, au fond, qu'est-ce qui est à l'origine de ce livre ? Qu'avez-vous voulu dire de la cité lagunaire qui fait rêver absolument tout le monde?
Bon, merci de cette question. D'abord, je voudrais brièvement remercier un certain nombre de personnes, bien sûr la librairie Mola qui nous accueille ici, Céline, Manon et toute l'équipe, Jean-Marie Plane qui a fait un bel article dans Sud-Ouest dimanche dernier, tous les gens de la collection Bouquins, et puis tous les collaborateurs du livre, et je ne peux pas les citer parce qu'ils sont 33 en tout, donc ça serait trop long, mais je vais en citer quelques-uns. Donc Alessandro Scarsella qui n'est pas là, mais on sait pourquoi quand même, ce n'est pas évident de venir en France en ce moment. Donc, voilà. Et puis Benoît Gachet qui est mon mari, qui a aussi écrit un bel article sur la lagune, qui m'a soutenue pendant les 5 ans qu'a duré ce travail, qui a été un travail parfois difficile, et qui a beaucoup participé aussi à la relecture des textes que nous a demandé l'éditeur. Et puis donc Marc Agostini, qui a écrit, bon, il était un peu prédestiné, un texte sur Saint-Marc, quand on s'intéresse à l'histoire de la religion et qu'on s'appelle Marc, c'était évident. Et Alain Vircondelet, donc, qui a participé à la fois en écrivant une promenade sur Saint-Marc et aussi un texte littéraire sur l'Acqua Alta qui figure dans notre anthologie. Et puis, je voulais vous remercier, vous, le public, qui êtes venus et qui êtes nombreux. Il y a des têtes connues, des parents, des amis, des voisins, des gens de l'université, des enseignants, des secrétaires, des bibliothécaires, des étudiants aussi, et ça c'est vraiment très bien, et puis des gens qu'on voit pour la première fois, mais vous êtes nombreux et ça nous fait vraiment, vraiment très très plaisir. Alors pour répondre à cette question, ce livre il est né parce que la collection Bouquins avait créé cette sous-collection donc destinée aux villes les plus prestigieuses du monde, et quand moi je travaillais à l'époque avec eux pour publier les œuvres complètes de Dino Buzzati, qui est un auteur que j'aime beaucoup et que j'ai aussi traduit, je leur avais dit si vous cherchez quelqu'un sur Venise, moi je pourrais le faire. Donc ça a duré un certain nombre d'années, chaque fois que j'y allais je leur disais alors pour Venise, bon, et finalement ils ont décidé de me confier ce travail-là. Je me suis associée moi j'aime mieux dire coordonner que diriger, je trouve que c'est fait plus sympathique, ce livre, avec Alessandro Scarsella qui est lui aussi un buzzatien passionné et donc un ami, un collègue de longue date. Et ce que nous avons voulu faire, c'est donc rassembler, comme je vous l'ai dit, une équipe très nombreuse de collaborateurs et qui soient à la fois des collaborateurs étrangers, français donc pour la majorité, des gens qui, comme moi, connaissent Venise, aiment Venise, y vont souvent. Et puis, d'un autre côté, des Italiens et des Vénitiens plus particulièrement, c'est-à-dire des personnes qui vivent Venise au quotidien et qui ont donc un regard différent sur la cité, puisque quelquefois il est beaucoup plus critique. Donc après, le livre, on y reviendra un petit peu, mais se divise, ça c'est la maquette de la collection, hein, en 4 parties, histoire, promenade, anthologie et dictionnaire. Et donc, pour chacune de ces sections et chacun des articles dans chaque section, on a fait appel à des gens qui sont à la fois spécialistes d'un domaine, mais qui aussi savent faire partager leur passion, parce que ça nous semblait vraiment très important qu'il y ait une sensibilité dans ce livre-là, que les gens parlent de leur Venise, de leur approche. Et donc, on a fait le choix, qui a été pour moi difficile, de demander aux Italiens d'écrire en italien pour justement garder ce côté sensible. Et donc moi j'ai traduit tous les textes, la moitié des textes écrits en italien, je les ai traduits en français. Et ça a été un travail formidable, parfois difficile, hein, quand j'ai traduit par exemple, Benoît m'a aidé là aussi, le texte sur les bateaux traditionnels en bois. Il y a beaucoup de termes techniques qu'on ne connaît pas forcément. Voilà. Donc ça a été ça. Mais notre idée aussi, c'est que bon, c'est un livre, vous l'aurez compris, qui voilà, est conséquent, qui devrait vous donner envie d'aller à Venise et d'y passer 3 mois, pas 3 jours, parce que vous verrez combien il y a de choses à voir, mais qui ne se lit pas forcément, alors à part évidemment pour la partie historique où il vaut mieux quand même commencer par le début et finir par la fin, mais autrement notre idée c'est que vraiment chaque lecteur en fonction de ce qui l'intéresse puisse aller picorer, hein, chercher des choses. C'est notamment comme ça qu'on a conçu les promenades, avec des aspects vraiment très différents, qui peuvent être des aspects très, très classiques, parce qu'on est obligé de parler du carnaval. Quand on parle de Venise, on ne peut pas faire autrement, hein, mais on peut peut-être en parler différemment de ce qu'on peut voir, notamment à la télévision. Et à côté, de parler d'autres choses plus insolites. On a laissé une grande place à la Lagune, mais aussi à Mestre, qui est sur le continent, mais qui fait quand même partie de la commune de Venise, quoi qu'en disent certains Vénitiens un peu trop purs et durs. Voilà, donc on a vraiment essayé de cerner tous ces aspects différents, avec des personnalités différentes. Je m'arrête parce qu'on a chronométré.
Vous arrêtez déjà ?
Oui.
Bien. Je voulais vous demander, je vous le demanderai après, alors, comment vous définiriez peut-être en conclusion le charme de Venise. Alors je vais demander à M. Virtondelet, on s'est un peu mis d'accord, hein, pour faire un passage de parole.
D'accord.
Et j'avais pensé, mais peut-être, vous avez écrit un très beau texte sur le Sestiere et San Marco, sur le quartier de Saint-Marc, et puis un beau texte aussi sur, qui est dans l'anthologie littéraire, puisque vous êtes écrivain. Et on voulait vous demander, avec Madame Gachet, si vous pouviez évoquer au pied levé les différents quartiers de Venise, les différents sestieri, comment vous les voyez de manière rapide, puisque nous sommes évidemment dans un timing.
Oui, ce que je voudrais dire auparavant, c'est que pour moi, Venise a été le lieu, je dirais, toujours du retour. Ça a été le lieu du retour, de l'arrivée, être chez soi. Et je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose, c'est une impression qui, évidemment, parle à beaucoup de gens. Et beaucoup de gens qui vont à Venise disent cette même impression que moi j'ai pu avoir depuis près de 40 ans maintenant, où je fréquente Venise régulièrement. Impression d'être chez soi, impression du retour, impression de ne plus être en exil, mais d'avoir un lieu qui vous remplit. Car Venise est à la fois le plein et en même temps, ce plein peut nous entraîner, comme pour beaucoup d'écrivains qui en ont parlé, à une sorte de, non pas de vide, mais à une sorte de suffocation du plein, qui fait que tout d'un coup, on est dans une sorte d'absence, et que tout ce qui est alentour et le monde entier n'existe plus. Donc il y a dans cette ville un charme, vous avez parlé, je crois, de charme tout à l'heure. C'est un charme, mais à prendre au sens le plus étymologique du terme, c'est-à-dire quelque chose qui a trait à la magie. D'ailleurs, Casanova disait que c'était une ville qui était de l'ordre de la magie, et quand on parle de Venise, on parle de l'initiation, on parle toujours de cette histoire d'une ville qui n'est jamais, comme vient de le dire Madame Gachet, qui n'est jamais découverte et qui est insondable, qui est un véritable puits qui fait que l'on écrira toujours sur Venise et qu'il y aura toujours après notre livre encore d'autres livres, Delphine.
Oui. Hein,
et que ce livre que tu as pu diriger, je crois, est fondamental. Il est une somme et en même temps, c'est comme les exégètes de Rimbaud. C'est comme les exégètes de Proust, on n'en a jamais fini. Car il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'infini dans Venise. Et Et à chaque fois que nous y allons, eh bien, on y trouve toujours quelque chose de plus. Alors, je me suis intéressé, quant à moi, au sestiere de San Marco. La ville est divisée, effectivement, en plusieurs sestieres. Mais le sestiere est le plus magique, justement. Le sestiere est le plus puissant d'émotions. Encore que d'autres, comme dans Soduro, comme Canareggio, comme d'autres, San Polo et d'autres, sont des quartiers dont on va toujours davantage à la découverte, parce que aller à San Marco, c'est évidemment le lieu obligé. Alors ce lieu obligé, il est toujours tributaire des clichés, tributaire des stéréotypes que l'on a pu accorder à la ville. Tous les touristes y vont, y compris ceux évidemment qui déferlent sur les grands bateaux de 8 étages aujourd'hui et qui déferlent dans la ville et qui vont uniquement sur le sestiere San Marco, qui ne dépasse même pas la place San Marco et qui repartent aussitôt pour aller dîner dans leur bateau monstrueux. Et heureusement, je dirais, j'en suis assez content parce que comme ça, ils ne sont pas là à l'heure du dîner. Et à l'heure du dîner, la ville est à nous de nouveau, la ville est aux vrais touristes, aux vrais amateurs, aux vrais amoureux de la ville. Alors, ce quartier que Delphine m'avait chargé de traiter, bien, je l'ai conçu comme une promenade. Hein. D'ailleurs, ça se voulait comme ça, c'était les promenades dans les quartiers. Chacun des contributeurs qu'elle a choisis a évoqué un quartier. Bon, moi, j'ai choisi San Marco. Parce que à la fois il était le plus magique hein, et en même temps le plus mystérieux. C'est-à-dire que plus je vais à Venise et plus je reste à San Marco, où je visite le soir, etc. Eh bien, il y a toujours quelque chose d'autre à trouver. Et tout à l'heure, j'étais à Paris ce matin. J'étais encore à Paris et il y avait je suis passé devant un antiquaire, rue Place Saint-Sulpice. Et il y avait une gravure de Venise. Je me suis arrêté, je l'ai regardé, et c'était un petit maître, je ne connaissais pas du tout ce nom-là d'ailleurs, un petit maître sur la place San Marco, de la place San Marco. Et j'avais vraiment l'impression que je pouvais être là, parce que la ville n'avait pas bougé finalement. Et c'était un tableau de la fin du XVIIIe siècle. La place où j'étais encore, où nous étions encore il y a quelques semaines à peine, elle était aussi peu peuplée que ne le montrait le tableau. Et j'avais vraiment l'impression que je pouvais être un de ceux-là. Et rien n'avait changé. Donc il y avait à la fois une immuabilité, mais en même temps une permanence. Et en même temps, ce qui fait la grandeur de Venise et la beauté de San Marco quelquefois, c'est qu'il y a une fluidité du climat. Il y a quelque chose qui est totalement intemporel, qui fait que, c'est pour ça que Proust l'aimait tant, et que Turner l'aimait tant, et que Nerval l'aimait tant, parce que justement, il y a dans cette ville quelque chose qui échappe à la définition. Donc c'est toujours très difficile de parler de Venise, hein, parce qu'il y a c'est une évidence de beauté. Hein. Je dis toujours à mes étudiants sur un autre sujet à propos de Voltaire, c'est très difficile à étudier, c'est très difficile à expliquer parce qu'il y a une telle clarté et une telle évidence chez Voltaire que mes étudiants se plantent toujours hein, dans l'explication. Eh bien, à Venise, c'est la même chose. À Venise, on est dans une telle évidence de beauté, dans une telle idée de beauté tellement immense que quelque chose nous échappe toujours et donc propice évidemment à l'écriture, propice à la poésie, propice à l'imaginaire, propice à l'émotion toujours renouvelée. Voilà, on va continuer à parler, mais je ne veux pas monopoliser la parole.
Oui, moi je voudrais juste préciser que Alain a tout à fait raison, que Saint-Marc, quand on arrive sur la place Saint-Marc, si on y arrive le soir, comme on l'a fait la dernière fois, et qu'il n'y a personne, et que la basilique est éclairée, c'est magnifique. Mais il y a quand même, Proust le disait très bien, il y a deux Venises, il y a cette Venise-là, somptueuse, presque écrasante de beauté, qui est celle du sestiere San Marco, de la place Saint-Marc, mais il y a aussi plein d'autres Venises et tous les quartiers. Alors, je défends aussi mon morceau, parce que moi, j'ai fait sur la promenade sur le quartier San Polo, qui est un quartier que j'aime beaucoup aussi, qui est aussi très, très beau. Donc, tous les quartiers ont leur charme et tous les quartiers sont vraiment différents. Et on sent des atmosphères vraiment différentes. Et quand on est allé aussi sur le ghetto, on a vu que Canareggio, c'était encore différent de Castello. Enfin, vraiment, chaque sestiere a son identité, mais au point que autrefois les Vénitiens avaient des dialectes particuliers. Donc, ils se comprenaient presque pas de sestiere en sestiere. Et quand un Vénitien de San Polo va à Canareggio, il se perd dans les rues. Donc, c'est vraiment... Venise, c'est ça, en fait. Mais parce que ça a été formé comme ça. C'est un agglomérat de petites îles. C'est pour ça qu'il y a autant d'églises à Venise, parce qu'il y avait une église sur chaque petit îlot. Et après, on les a rejoints, les îlots, on a fait des ponts, etc. Mais c'est vraiment cette entité d'une multiplicité de villes, de petites villes, de petits hameaux différents, qui fait que toute Venise est magnifique.
Il y a ce qu'on appelle la Venezia Minore, et effectivement, on la trouve au ghetto, nous y étions il y a quelques temps encore. Et puis, il y a cette Venise Maggiore. Mais en même temps, même dans la Venise Maggiore, qu'est San Marco, il y a quelque chose aussi de très infinitésimal, très petit, qu'on peut trouver, un détail, une sorte de grâce minuscule, qui est d'une immense beauté et qui est encore donnée qu'à ceux qui, évidemment, ont l'œil et ont le cœur ouvert, bien sûr. Tout ne se donne qu'à celui qui sait voir. C'est ce que disait Saint-Exupéry, vous le savez bien dans Le Petit Prince. Mais c'est aussi ça. Parce qu'il y a plein de gens qui vont à Venise et qui ne voient rien. Qui passent de façon tout à fait rapide et aléatoire sur les choses. Mais je crois que Venise ne se donne et ne s'ouvre que... Elle n'ouvre son cœur, elle n'ouvre sa beauté qu'à ceux qui sait la voir, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a que tant de poètes l'ont aimé, parce que les poètes savent voir, bien sûr.
Bien, je vais me donner la parole.
Ah, mais faites ce que vous voulez.
Oui, parce que Marc est un collaborateur aussi, il a le droit de parler.
Alors moi, je suis de souche, je suis un Français de souche toscane, et je ne suis pas beaucoup allé à Venise. Voilà, pour vous dire que l'admiration est grande. Et j'y suis allé en janvier de l'année dernière, en basse saison, très vite. Et j'ai découvert combien la Venise de janvier, c'était une Venise où on parlait italien, et pas l'anglais. Une Venise où les Vénitiens sont aimables, beaucoup plus que les Toscans, par exemple, ou que les Romains. Et une ville effectivement admirable. Je ne peux que... Je pensais à Venise, moi je pensais, pour faire un peu florentin, que Venise, c'est un peu la Vénus sortant des eaux de Botticelli au milieu de sa lagune. C'est la ville merveilleuse. Alors Delphine Gachet m'a demandé d'évoquer un petit peu les parties rudes, mais intéressantes du livre, très vite. Moi, j'ai fait un article sur le personnage essentiel de Venise, qui est Saint-Marc. Je précise que je n'ai fait que Saint-Marc. Je n'ai pas fait... San Marco, et je n'ai pas fait le rapport à Venise de San Marco. J'ai fait l'histoire du saint, et j'ai essayé de montrer combien Venise et Rome étaient liées, mais combien Venise était très liée à la papauté. Voilà, c'est un petit peu un des éléments importants, justement, par contradiction avec l'Empire byzantin. Et à ce titre, elle m'a confié donc de relire de plus près les chapitres historiques qui sont excellents. Vous savez que Venise, il y a trois phases importantes. Donc, il y a la Venise lagunaire qui devient une ville à partir de petits îlots épars, dont on peut faire la carte encore. Il y a ensuite la Venise triomphale qui va du 10e au 16e siècle, puisque c'est le triomphe de la Méditerranée. Et Venise est le centre du monde, il faut bien le dire, un des centres du monde. Mais sa basilique n'est toujours que la basilique du Doge. Sa cathédrale est toujours à San Pierre in Castello. Et l'église est tenue un petit peu à distance. Et il y a un chapitre tout à fait remarquable dans le livre, mais je ne vais pas vous dire tous les épisodes de la mise en place des institutions. Mais on va passer du Ducato, le duché, qui était un duché de l'Empire byzantin, à la Repubblica. La République de Venise, qui est un terme qui tient tellement fort qu'en 1848, les révolutionnaires italiens de Manine ont renversé les Autrichiens et ont proclamé à Venise la République de Saint-Marc. Mais c'était pas la République française ou la République italienne, c'était la République de Saint-Marc. Et cette République avait ce ducato, ce dux, ce doge, et tout ceci est très bien expliqué, et je crois que si vous allez à Venise ou si vous en revenez, il faut absolument lire cela pour voir qu'est-ce que c'est que cette institution extrêmement importante. Et puis l'institution patriarcale aussi, qui va s'instaurer. Le pape Jean XXIII était extrêmement dévot envers le premier patriarche de Venise, Saint Laurent Giustiniani. Et je crois que dans ce chapitre, on voit bien tout cela, et on voit surtout combien Venise a essaimé dans la Méditerranée. Ça, je crois que toute la côte yougoslave, ex-yougoslave, vous voyez, je parle comme un homme du XXe siècle, la côte ex-yougoslave dont Sesbodi est très belle parce qu'il y a des plages et il y a des monuments, mais les monuments sont tous des monuments vénitiens. Candie et la Crète aussi. Mystra près de Sparte aussi. Partout, Venise a essaimé de manière remarquable. Et sa principale ennemie, c'est très amusant, c'est sa sœur Gênes. Sur le drapeau italien actuellement, le drapeau marin de l'Italie, nous avons des armoiries d'Amalfi, ça c'est pour faire plaisir au sud, de Pise, c'est justifié, de Gênes et de Venise. Et les querelles Gênes-Venise sont des querelles extrêmement importantes. Et puis Géraud Pomarène, dans une troisième partie, rend un hommage tout à fait remarquable au déclin de Venise. Au fond, on ne sait pas si ce qu'on aime à Venise, ce n'est pas son déclin. Parce que la Méditerranée est fermée, le commerce se fait désormais dans l'Atlantique. Venise perd beaucoup de commerce, enfin beaucoup de marchandises, et elle devient vraiment le lieu des plaisirs, le lieu du luxe, le lieu où toute l'Europe défile, et on voit le lent déclin de celle qui est devenue la sérénissime. Et dans le mot sérénissime, il y a un peu de somnifère quand même. Si je vous dis je suis sérénissime, comme dirait Anna Magnani à Fellini, vai a letto, alors allez vous coucher. Bon, donc si vous voulez, je crois qu'il y a cet élément. Voilà, cette histoire, vous la trouverez dans le livre de manière extrêmement agréable. Je l'ai reprise ce matin. Et alors, je dois rendre hommage, et ce n'est pas parce qu'il est là, Benoît Gachet, à son chapitre de géographe de grand talent sur la lagune. Parce que Venise se comprend que si on comprend bien le système de la lagune. Et il nous donne, dans son article sur les questions lagunaires, une explication extrêmement ferme sur les vents du nord, les vents du sud, les passes de l'Adriatique vers la lagune, les paysages lagunaires avec, comment ça s'appelle là, les choses qui se...
Les barines.
Les, voilà. Vous voyez, moi je suis... je parle que l'italien, hein, je ne parle pas le vénitien. Bon, alors je disais donc qu'il y avait cela dans son article qui montre bien toute la... Et vous montrez bien, cher ami, vraiment toute la fragilité de Venise. Et Venise, c'est pas étonnant qu'elle soit aussi menacée quand on voit le système lagunaire. Ce qui m'étonne quand même dans ce système lagunaire, c'est qu'il y a encore des poissons. Alors, c'est ça, il y a encore des poissons. Alors, il y en a qui sont empoisonnés, évidemment, il ne faut pas manger de moules de la lagune, mais je crois qu'il y a encore des poissons, il y a encore une vie. Et le jour où il n'y en aura plus, au-delà du Lido, ce sera fini. Alors, je crois que cet article est très important parce que c'est la clé de voûte de la ville et c'est une grande question écologique. On parle souvent d'écologie, j'en ai fini, voilà, je termine sur ce mot que j'emploie peu, c'est pas tellement ma famille de pensée, mais enfin bon. Il faut reconnaître que l'homme saccage la nature, et qu'au XIXe siècle, les gens, les Autrichiens, en faisant le pont avec la terre ferme, ont, je crois, empêché les courants de passer. Au XXe siècle, on a voulu faire un port pétrolier de cette merveille qu'est Venise. Et aujourd'hui, il y a les grands bateaux, mais comme les grands bateaux sont les mêmes qui viennent à Bordeaux, que ceux qui n'ont jamais pêché leur jettent la première gondole. Parce que je crois que là, toutes les villes sont très... Voilà, ce que je voulais dire en histoire géographique, un peu rapidement, hein, excusez-moi, c'est un peu rapide, mais... Alors je donne la parole, c'est vrai que je suis le modérateur. Alors, je pense que si on continue la lecture du livre, excusez-moi, je m'étais emporté sur la lagune, voyez. Je disais que il y avait un chapitre très nouveau. Alors, il y a deux chapitres à la fin qui sont vraiment très beaux, très très riches. Il y a le dictionnaire qui est, on pourra le feuilleter tout à l'heure si on a le temps, hein, parce que on va essayer d'être sage. Et il y a surtout une anthologie. Alors, cette anthologie, c'est une anthologie d'écrivains francophones, hein. Non, ayant écrit dans leur langue, italien ou français, après 1870.
Oui.
Voilà, c'est votre définition. Ce qui fait qu'on ne trouve pas les écrivains d'antan. Et alors, j'ai regardé, bien sûr, si Dante il n'y est pas, mais il ne pouvait pas y être, de toute façon, parce qu'il a assez peu écrit sur Venise, à part sur l'Arsenal, mais oui. Vous le citez. Et il a failli mourir à Venise, puisqu'il était en ambassade pour Ferrare à Venise. Il a attrapé... Voilà. La malaria, et il est rentré et il est mort à Ravenne. Donc les grands Montaigne, évidemment, il n'était pas dans le coup. Donc mes classiques, je suis donc allé vers les nouveaux. Alors, comme vous êtes deux littéraires de qualité exceptionnelle, je vous donne la parole si vous voulez dialoguer sur les auteurs que vous avez choisis, parce qu'après tout, c'est à vous là.
Oui, alors bon, pour cette anthologie littéraire, effectivement, nous on a voulu faire un choix difficile, c'est le choix d'écrivains contemporains, c'est-à-dire du 20e et du 21e siècle, de toutes les nationalités en fait. Hein. Il y a aussi des Américains, des Espagnols, des Russes. Après, on n'a pas trouvé encore, pour l'instant, grand-chose dans les littératures asiatiques ou africaines. Pour l'instant, ça va venir sans doute, mais pour l'instant, il n'y a pas encore grand-chose. Donc, on a choisi effectivement des écrivains contemporains, et donc on a exclu un certain nombre de grands classiques, mais qu'on connaît déjà, parce que Proust sur Venise, on a l'impression de l'avoir déjà lu, il n'est pas dans l'anthologie. Par contre, on a un texte d'un écrivain catalan qui s'appelle Jim Ferrer, qui raconte les relations de Fortuny et de Proust. Donc Proust est quand même présent de cette manière détournée. Mais vraiment, le choix d'auteurs ou de textes nouveaux. C'est-à-dire que, par exemple, on a mis Paul Morand, que tout le monde connaît aussi, mais un autre texte qui s'appelle D'autres Venise, et qui donc est nouveau et moins connu du grand public. C'est vraiment un choix de notre part. Ce qu'on a voulu faire aussi, c'est dire que bon, les écrivains étaient toujours des gens qui existent, qui vivent et qui écrivent. Et donc, on a aussi laissé la place à des écrivains vivants pour qu'ils nous écrivent. On leur a demandé un texte inédit juste pour notre anthologie sur Venise. Donc, Alain en fait partie. Il est en réalité le seul Français à qui on a demandé cela, les autres étant des Vénitiens dont beaucoup sont déjà traduits en français et qui donc ont écrit un texte spécial sur ce livre-là. Alors après, l'anthologie, bon, c'est toujours pareil, c'est pour Venise, le gros problème de Venise, vous l'avez compris, c'est qu'il y a trop de choses à dire et on avait beau avoir 1200 pages, on a vraiment dû faire des choix, tout le temps des choix cruciaux. Donc là, on a par exemple fait le choix d'exclure totalement la poésie, on a mis que des textes en prose. Je sais que certains ici le regretteront, mais voilà, on ne pouvait pas tout mettre. Hein. Et on a essayé quand même de les classer un petit peu, ces textes. On a fait plusieurs sections dans l'anthologie. La première, c'est la section historique, c'est-à-dire qu'on suit à travers les textes littéraires l'histoire de Venise, Venise à travers l'histoire. La deuxième, on l'a intitulée « 5 sens plus 1 », donc c'est plutôt donc, sur les perceptions de Venise, et le sixième sens, le sens surnuméraire, est la dimension fantastique, parce que Venise est une ville qui a, bon, Alain te parlait de magie tout à l'heure, et c'est vrai que quand les écrivains se rendent à Venise, ils perçoivent très bien tout le mystère de cette cité, et ça les incite à écrire. Je pense à Proust, qui n'est pas vraiment un écrivain fantastique, mais quand il parle de Venise, il raconte comment il se promène sans sa maman dans la Venise nocturne, dans d'autres quartiers, hein, que le quartier de San Marco, et que là il découvre des campi, puisqu'on dit campi à Venise pour dire place, que le jour il n'arrive jamais à retrouver, en fait, qui n'apparaissent là que la nuit. Donc vraiment, hein, cette dimension fantastique de la ville nous a paru importante. Et la dernière section, nous l'avons intitulée Passion liquide. Nous avons mêlé à la fois les sentiments qui sont liées à Venise, Venise étant depuis longtemps la ville liée quand même à l'amour, hein, la ville de l'amour, la ville de la fête, la ville du carnaval, la ville de la prostitution aussi, hein, on peut le dire, mais une ville que, donc, où on va encore faire son voyage de noces de façon assez traditionnelle. Une ville qui peut aussi, comme nous avons l'esprit ouvert, nous avons mis le texte de Régis Debray qui s'appelle « Contre Venise », et qui est un texte abominable en fait, qui détruit Venise. En fait, ce qu'il veut faire, c'est l'éloge de Naples, et donc il oppose Naples et Venise pour parler de Naples. Bon, on l'a mis, on n'est pas du tout d'accord avec ce qu'il dit, mais on l'a mis quand même. Et surtout, la question de l'eau, hein, parce que ce qui caractérise Venise, c'est évidemment cette présence de l'eau qui fait que Venise est forcément différente. Donc c'est cela que l'on a voulu voir. Et donc on a pu mettre un certain nombre d'écrivains que l'on rencontre moins souvent et qui sont vraiment des écrivains importants. Je pense à André-Pierre de Mandiargues ou à sa femme Bona de Mandiargues, dont on a mis un texte qu'elle avait écrit avec Alain justement. Marcel Brion, qui est un académicien français qui a écrit un très beau texte sur le carnaval. Enfin, il ne l'a pas écrit puisqu'il est décédé, mais sa fille nous a donné un inédit. Bien sûr, il y a Buzzati, parce que Buzzati a écrit aussi sur Venise, un texte fantastique, magnifique. Voilà, donc il y a un certain nombre d'écrivains comme ça. Je ne peux pas non plus tous vous les citer. Je voulais faire la liste de mes écrivains préférés et j'ai commencé à voir qu'elle serait trop longue pour vous la dire. Il y a vraiment des textes superbes dans cette anthologie. Alors Alain a dû donc écrire, c'était sujet libre, hein, et il a choisi d'écrire sur l'Acqua Alta, qui est quelque chose de très spécifique à Venise.
Oui, je suis très content de cette partie, hein, anthologie que tu as réalisée, parce que effectivement, il y a des auteurs qui sont magnifiques et quelquefois oubliés et qui se retrouvent dans cette anthologie. Et je suis content particulièrement, tu viens de les citer tous les deux, je te remercie d'avoir cité André-Pierre de Mandiargues, qui est quand même un des plus grands poètes français, et sa femme Bona de Mandiargues, qui était l'égérie des surréalistes, qui était la muse aussi de Breton et de Borges. C'est très important de les citer parce qu'ils vivaient très souvent à Venise. Et c'est vrai que quand j'étais jeune homme, il y a une bonne quarantaine d'années, j'ai rencontré les Mandiargues et ils m'ont pris sous leur aile. Et j'ai, grâce à eux, été initié à Venise. C'est Venise qui m'ont fait connaître la vraie Venise, surtout Bona, à tel point que je lui ai rendu un hommage dans les années 70 avec un livre qui s'appelle Bonaventure. Hein. Ça a été une rencontre très importante, très grande, entre André-Pierre de Mandiargues, qui avait préfacé mon premier roman, et puis Bona, qui m'a initié à Venise, ainsi qu'André d'ailleurs. Lorsque j'y suis allé, évidemment, j'allais dans leur palais, car Bona était une descendante des doges, une Tibertelli de Pisis, et elle avait un palais là-bas que son oncle Eduardo de Pisis, le grand peintre vénitien, lui avait donné en héritage. Et donc, c'est par cette introduction majeure, hein, que j'ai pu accéder à la connaissance de Venise, qui ne m'a jamais quitté. Et Bona parlait toujours, comme tu l'as dit, de l'univers, je dirais presque fantastique, de Venise. Je retrouvais là sur une page du livre de Bonaventure, qu'on avait publié chez Stock à l'époque, elle dit à propos de ces moments où encore il y avait le port de Marghera, et elle dit aujourd'hui c'est l'eau qui mange Venise, c'est elle qui va l'abolir, et l'eau pourtant était sa conquête, la politique de la terre ferme mange Venise. Venise est encore une ville humaine, la ville du pétrole est vide, peu d'ouvriers y vivent. L'eau près des usines de Marghera est glauque, est figée, d'avion c'est l'univers de Lovecraft. Le pétrole dans l'eau ressemble à des poulpes. Le marbre est partout, il envahit tout, c'est le matériau funéraire. La fumée des vapores y donne une ombre artificielle au baroque des façades. C'est une ville baudelairienne par excellence. Pourriture et beauté se rejoignent dans l'artifice. C'est une ville aussi qui est une prison, une ville monacale encore et labyrinthique. Il faut prendre la buonacalle, sinon on va dans les faux chemins qui mènent à l'eau. C'est tout cet univers-là qu'évidemment les poètes ont pu explorer. Et J'ai choisi quand il m'a demandé d'écrire un texte sur Venise. Moi, j'avais beaucoup écrit sur Venise déjà. Plusieurs livres qui ont été écrits, mais je les écrivais en sémiologue, c'est-à-dire j'en étudiais les signes plus que je n'en faisais les guides touristiques, bien sûr. Et j'avais envie toujours de parler sur l'acqua alta, c'est-à-dire ce phénomène naturel qui est de plus en plus fréquent d'ailleurs, hein, mais qui était à un certain temps encore assez rare et qui était une vraie curiosité et en même temps qui faisait l'étonnement et la joie. La joie malheureuse des touristes, car évidemment, particulièrement San Marco était toujours la plus touchée, puisque c'était pourquoi il y avait le Rialto. Hein. La ville basse est évidemment presque à la lisière de la lagune, c'est-à-dire San Marco qui est le point le plus bas. Et l'eau monte évidemment à cet endroit de façon assez impressionnante. Alors il y a de grandes marées, et au moment des grandes marées, évidemment, l'eau monte très fort. Alors j'avais beaucoup lu sur l'acqua alta, et particulièrement des Italiens, des écrivains italiens. Brodsky en a parlé, puis Barbaro également. Et donc, j'avais jamais vu, alors que j'étais allé plus tant de fois à Venise, mais je ne l'avais jamais vu, et je l'ai vu il y a 3 ans, pour la première fois, mais de façon assez grandiose. Et l'eau était vraiment montée très haut, à tel point que d'ailleurs il y avait des personnes qui sillonnaient la ville pour dire de l'administration qui disait qu'il fallait que l'eau montrait à telle heure très précisément, fallait faire attention, etc. Et donc nous l'avons, mon épouse et moi, nous avons assisté à la montée des eaux et au bouillonnement des eaux sur la place Saint-Marc, et c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Donc j'ai écrit ce texte-là qui s'appelle Acqua Alta, tout simplement, et qui est assez, si vous voulez, ce qui m'a un peu fasciné, c'était de voir que malgré cette inondation de la place Saint-Marc, heureusement la basilique est protégée par quelques marches qui permettent que l'eau ne puisse pas accéder dans l'intérieur de l'église, mais atteint quand même les premiers paliers, là où il y a le fameux parterre de mosaïques qui ressemble à des tapis d'Orient, mais qui sont maintenant, et pour cause, boursouflés par l'humidité, à cause justement des montées des eaux. J'ai observé que malgré tout ce danger que cela peut représenter, il y a une sorte de paix, de tranquillité, de sérénité presque dans la ville, malgré ce que ça peut représenter. Nous serions affolés de voir cela en France. On le voit à la télévision quand il y a des phénomènes aussi de cet ordre, bon, moins importants évidemment, mais Venise a connu des moments comme ça aussi. Hein. Et donc j'ai été très impressionné par ça, par la beauté, là encore magique, de Venise la nuit, puisque ça s'était passé la nuit. Il était 10 heures du soir, l'eau était montée à son pic, là. La place était remplie d'eau, miroitée de partout. Il y avait toujours l'orchestre du Florian qui jouait des valses de Vienne, imperturbablement devant 2 couples seulement, hein, et continuaient, ils devaient avoir seulement leur contrat jusqu'à 23 heures, je crois, ou minuit. Et donc ils jouaient toujours devant une place qui était quasi désertée. Et il y avait encore quelques Érythréens, petits migrants qui vendaient à la sauvette, à qui personne n'était là pour acheter, mais vendaient des méduses fluorescentes qu'ils faisaient jaillir dans le ciel. C'était assez étonnant, c'était vraiment surréaliste totalement, et évidemment infiniment poétique. Et c'est ce moment dont j'ai voulu rendre compte.
Très, très agréable à entendre en tout cas, et à lire bien sûr. Alors nous allons un petit peu évoluer. Alors il y a un auteur, il y a un auteur qui dit pas trop de mal de Venise, c'est Julien Gracq, oui. Parce qu'il assomme Rome autour de cette colline. Et chez Debré, auteur que j'aime beaucoup par ailleurs, je crois qu'il y a un peu une posture. Oui. Il est bon de dire que Venise, voilà, c'est atroce. Bon, c'est moi, je vous ai dit que j'aimais beaucoup, mais que c'était pas mon pied total. Et vous avez été étonné, j'étais un des rares à avoir dit ça. Hein. Bon, j'ai quelques réserves sur Venise. Alors, vous voyez, mes collègues n'en ont pas. Et pas sur les Vénitiens. Ah, ça, sur les Vénitiens, ils m'ont conquis. Alors, vous avez aussi dans les auteurs Cipriani.
Oui.
Et Cipriani, vous savez, c'est son père qui a inventé le carpaccio. Hein, le carpaccio, c'est le papa de Cipriani avec qui Madame Gachet a dîné.
Pas le papa, hein, parce que...
Avec le fils.
Parce que le fils, il a déjà...
Et il a inventé le carpaccio. Vous avez tous mangé du carpaccio. Voilà, alors vous saurez que ça vient de Venise. Est-ce qu'il y a une petite note dans votre livre? Ce sera la seule question que je ne poserai pas. Vous dites que le baccala, c'est un plat vénitien où on mélange de la morue avec de la pomme de terre. C'est possible à Venise, mais dans tout le reste de l'Italie, baccala, comme en Espagne et comme au Portugal, ça veut dire morue, tout simplement.
Oui.
Alors, il doit y avoir un autre mot, ou alors, peut-être qu'à Venise, ça veut dire brandade. C'est... Mais ailleurs, non, hein, je peux
non,
vous garantir.
Baccala, c'est la morue. Hein.
C'est la morue.
Baccala mantecatino, c'est la, comme nous, on a la brandade de morue. Oui. Baccala mantecatino, c'est la recette.
Ah, oui, non, mais la note, bon, c'était une petite, oui. une petite pique qui était innocente.
Non, parce que, alors, effectivement, on peut parler de...
Alors, qu'est-ce qu'être vénitien? C'était ce que je voulais vous poser comme question.
Oui.
Comment est-on vénitien? Qu'est-ce qu'un vénitien? C'est, ça vous va comme
oui,
formulation?
Oui,
c'est pas,
oui.
Pas trop flou?
On va y répondre. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a de moins en moins de vénitiens à Venise. Il y a même un compteur de vénitiens qui se trouve dans la pharmacie qui est près du Ponte de Rialto. Et chaque fois qu'on passe, on regarde et chaque fois, ça descend. Donc maintenant, ils étaient un peu plus... On a mis le chiffre, mais ça a encore un peu baissé. 58 000 Vénitiens à Venise. Bon, il y a quand même encore beaucoup de vie. Il y a encore beaucoup, notamment, d'étudiants, puisque l'université de Venise est très, très importante et très renommée. Mais c'est pas facile d'être vénitien. Être vénitien, c'est pas tout à fait être italien. Hein. Bon, on sait qu'en Italie, vous disiez que à Venise on parlait italien en janvier, mais non, on parle vénitien en janvier à Venise, parce que bon, l'Italie, les dialectes en Italie sont toujours très très vivants, et donc les Vénitiens parlent le vénitien. Et ce qu'on a voulu aussi montrer dans le dictionnaire, c'est ça, c'est que tout à l'heure je vous l'ai dit, il y a des mots qui sont vraiment spécifiques, qui n'existent pas en italien, qui sont des mots vénitiens pour décrire certaines réalités à la fois de la lagune. On parlait des barènes, les bricolets, qui sont ces pieux de bois qui signalent les chenaux dans la lagune, ou dans la ville elle-même. À Venise, on ne dit pas une via, on dit una calle. Hein, on ne dit pas una piazza, il n'y en a qu'une, c'est la Place Saint-Marc. Mais autrement, toutes les autres sont des campi. Hein, campo, campo, au départ, c'est le champ. Parce qu'il faut aussi imaginer que Venise n'était pas pavée comme elle l'est maintenant. C'est arrivé un peu plus tardivement. Mais qu'il y avait des chevaux, des vaches à Venise. Et que donc, ces places-là étaient des endroits où l'herbe poussait. On le voit encore, justement, à San Pietro di Castello, devant l'ancienne basilique, enfin l'ancienne cathédrale, qui restait en herbe. Donc voilà, donc, il y a des réalités proprement... vénitienne. Même dans, on parlait de la cuisine, hein, il y a évidemment des spécialités culinaires. Bon, on a vu cette année que le spritz arrivait en force en France. Là, moi, j'étais très étonnée. Bon, c'est pas le vrai, hein, parce que c'est le spritz apérole. Et les Vénitiens ne prennent pas le spritz à l'apérole, mais au Campari. Bon, mais c'est
ça
le vrai.
Ça donne soif, tout ça.
Donc voilà, et donc ce nom-là marque bien aussi qu'au moins les Autrichiens ont laissé ça à Venise, c'est-à-dire cet apéritif. Il y en a un autre bien connu qui est le Bellini, qui a été aussi inventé par Monsieur Cipriani. Oui, on en revient à cette question de la gastronomie. Donc vous lirez comment Carpaccio a été d'abord inventé hein, par ce Giuseppe Cipriani, et qu'ensuite il a filé la métaphore en donnant le nom d'un autre peintre à son apéritif, le Bellini, qui est d'une couleur plus orangée. Voilà, donc il y a encore vraiment des spécialités culinaires à Venise. C'est difficile d'être vénitien parce que Venise est envahie par le tourisme, c'est-à-dire que plus difficile à trouver à Venise, Marc en a fait l'expérience, c'est pas un masque, hein, c'est une boîte d'allumettes. Ça, c'est plus difficile à trouver à Venise. Donc, c'est vraiment contre ça qu'il faut lutter, parce que c'est vrai que chaque fois qu'on va à Venise, on s'aperçoit que là où il y avait une maison, c'est devenu un hôtel. Là où il y avait une épicerie, c'est devenu un magasin de masques. Et donc, c'est ça la difficulté de vivre à Venise. Venise est une île. Hein, Venise est une île, elle est quand même loin du continent, donc à Venise on peut pas passer incognito à Venise. Les Vénitiens savent que tout le monde sait où ils sont allés à telle heure et telle heure, c'est vraiment un village, hein. Mais il n'en reste pas moins que Venise est une ville vraiment extraordinaire, à laquelle les Vénitiens restent en dépit de tout vraiment très 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 attachés, et ils se battent, on parlait tout à l'heure de ces gros bateaux qui sont vraiment un fléau, parce qu'à Venise ils sont quand même plus gros qu'à Bordeaux. Nous en avons fait l'expérience, puisque au mois de mai nous sommes allés nous promener dans des petites topettes qui sont des petits bateaux à moteur, et que sur le canal de la Giudecca on a croisé un grand bateau. Alain était très effrayé et Benoît est allé voir le bateau de plus près, mais c'est vraiment un énorme problème. Ils se battent, il faut que ce soit l'opinion internationale qui se mobilise contre des choses comme ça, parce que évidemment la question c'est ce que ça rapporte, pas tant à la ville d'ailleurs qu'au port de Venise. C'est évidemment des sommes astronomiques. Hein. Et puis ils se battent aussi parce que, en fait, ce qu'on voit aussi bien dans notre livre, c'est que Venise, il y a Venise, mais il y a aussi toute une constellation d'îles autour de Venise qu'on ne connaît pas. Alors on connaît Porcello, Burano et Murano, celles les trois qu'on connaît, mais il y en a beaucoup d'autres, des îles très, très extraordinaires. Hein. Il y a Sant'Ascanio, par exemple, qui était l'endroit où on allait quand les cimetières étaient trop pleins, déposer les ossements. Et où, paraît-il, les étudiants de médecine, quand ils en avaient besoin, allaient chercher un fémur ou voilà. Donc, il y a beaucoup d'îles sur lesquelles il y avait des bâtiments importants, notamment des couvents. Et évidemment, de nos jours, les couvents sont quand même bien moins peuplés. Donc, ces bâtiments-là sont à l'abandon et on essaye de les reconvertir. Souvent, on en fait des grands hôtels. Et ça ne marche pas forcément. Hein, même le grand hôtel de la Giudecca, le Molino Stucchi, que certains d'entre vous connaissent, est en vente. Si vous avez un peu beaucoup d'argent, vous pouvez vous acheter un hôtel à Venise. Mais voilà, parce que malgré tout, ce n'est pas dans le centre et ça prend moins. Donc les Vénitiens se battent. Et par exemple, il y a une île qui s'appelle Poveglia qui était mise à la vente. Et les Vénitiens ont fait une association en disant « Mais nous, cette île, on veut la garder. On veut pouvoir aller se promener le dimanche avec nos enfants. » Voilà. Donc c'est un combat de tous les jours. Et il y a une réelle identité vénitienne. Il y a quelques Vénitiens dans la salle qui pourront témoigner, qui le ressent très fort et qui transparaît vraiment aussi énormément dans les écrits des auteurs vénitiens qui sont dans l'anthologie.
Oui, moi, ce qui me frappe beaucoup chez les Vénitiens, au-delà de tout ce que Delphine vient de dire, c'est la grande dignité des Vénitiens, l'aristocratie naturelle des Vénitiens. On les reconnaît, on sait qui est le touriste et on sait qui est le Vénitien. On le reconnaît à sa tenue, à son maintien, à son port, à son allure aristocratique, même les gens les plus simples. Comme si la ville, par sa beauté elle-même, obligeait le vrai amoureux de la ville de se tenir. Il y a une grande dignité chez l'Italien vénitien. On le voit dans les Vaporetto et tout, ils sont toujours loin de l'attitude souvent impudente des touristes. Ils sont au contraire dans une grande... ils se tiennent eux-mêmes, c'est ça qui est très beau. Mais je pense que les lieux, évidemment, influencent les êtres qui y vivent. Et ils sont appelés par la même grandeur, par la même beauté, par la même force intérieure, par la même spiritualité aussi que la ville, qu'une ville peut avoir. Et on le sait, Venise s'appelait la città sacra. C'était vraiment la ville sacrée, on l'appelait comme cela au XVIe siècle. Et c'est une ville qui est pénétrée de spiritualité, non seulement parce qu'il y a beaucoup d'églises, mais aussi par la force, l'énergie, la vitalité, les énergies vitales profondes qu'il a fallu développer pour que la ville soit ce qu'elle est aujourd'hui.
Oui, je vous remercie de cette évocation de la spiritualité, en effet, qui est importante à Venise, effectivement. On voit, certains disaient même que si on a eu un pape qui s'appelait Jean-Paul II, c'est parce qu'il y en avait eu un qui s'appelait Jean-Paul Ier, qui était patriarche de Venise, et quand il a dit son nom, on a donné des explications, c'était ses deux prédécesseurs, et les Vénitiens disaient pas du tout, il a pensé à Zampolo. L'église Giovanni e Paolo. Alors, je ne sais pas si non è vero. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est amusant, en tout cas, que certains Vénitiens aient pu faire cette réflexion. Les églises sont très pieuses. Alors, je vais conclure, non sans dire que, tout de même, comme dirait Plantu, quand il avait dessiné le Concile Vatican II, vous savez, il avait mis une bulle, on voyait tous les évêques, et puis dans la bulle, il y avait « ça manque de femmes ». Et effectivement, nous avons peu parlé de la vénitienne, mais le livre en parle, et en particulier du blond vénitien. Vous voyez, je voudrais terminer sur cette évocation. Alors le blond vénitien, mesdames, c'est un blond artificiel, c'est ce que j'ai appris. Elles ne sont pas natives avec des blonds vénitiens comme ça, grâce à la lagune. Voilà, je vous remercie, nous vous remercions de votre attention.